Eh bien, bonjour, bonsoir à toutes et à tous, c'est Rémi, et aujourd'hui, je ne suis pas seul, je suis accompagné de... Tu dis bonjour?
Bonjour à toutes et à tous.
Voilà. On a décidé avec Marcel de lancer un format sur le streetcast qui va être, je sais pas, 5 ou 6 épisodes, dans lequel je lis les histoires du soir à Marcel, parce que ça fait plusieurs fois que je lui... Enfin, tous les soirs ou presque, je lui lis des histoires. Et là, on a lancé
Trop
un
de
cycle
blabla.
sur les histoires de Jules Verne. Donc, on a acheté un livre qui s'appelle Les voyages de fantastique de Jules Verne. T'arrêtes. Aux éditions Ozou. Qui reprend plusieurs histoires. Donc là, on va lire Le Tour du Monde en 80 jours. C'est du format extrêmement allégé. C'est-à-dire qu'on a déjà lu 5 semaines en ballon sur une trentaine de pages
Et
avec
après, ils vont nous
des
demander
illustrations
pourquoi on l'a pas enregistré.
et écrit en long, en gros. Donc c'est vraiment très, très, très allégé. Ça ne devrait pas prendre beaucoup de temps. Mais voilà, Marcel, ça fait un moment qu'il voulait me. Relancer le podcast, du coup, on le fait à partir de ce soir. Ça va prendre plusieurs soirs. À chaque fois que je lis, il n'y aura pas de montage. Et à chaque fois que je lis, je poste. Et le lendemain ou le surlendemain, il y aura l'émission suivante. Oui,
Si c'était une vidéo, t'aurais repris le panneau pas de montage comme je...
Martin. Le tour du monde en 80 jours. En cette année 1872, Phileas Fogg habitait Savile Row, un quartier chic de Londres. On ne connaissait pas grand-chose de ce personnage, galant homme et gentleman de la haute société anglaise, si ce n'est son appartenance au très select Reform Club. Il était riche, mais comment avait-il fait sa fortune? Personne n'aurait su le dire. Il avait voyagé car personne ne semblait mieux connaître la carte du monde que lui. Mais il n'avait pas quitté Londres depuis plusieurs années. Ses seuls passe-temps étaient la lecture des journaux et de longues parties de whist avec ses partenaires du club. Le whist, c'est un jeu de cartes. On ne lui connaissait ni femme, ni enfant, ni parents, ni amis. Un seul domestique suffisait à le servir. Ce jour-là, le 2 octobre, Phileas Fogg attendait justement son nouveau domestique. À l'heure et à la minute prévue, on a sonné à la porte d'entrée. Un jeune homme athlétique et souriant
Il bande et passe partout.
se tenait dans l'encadrement. Bonjour, jeune homme. Vous êtes français, si j'ai bien compris. Pour vous servir, monsieur, mon nom est Jean Passepartout. J'ai fait plusieurs métiers, écuyer dans un cirque, acrobate et professeur de gymnastique. Mais je voudrais désormais mener la vie plus tranquille d'un valet de chambre. Eh bien, à compter de ce 2 octobre, à 11h29 du matin, vous êtes mon nouveau valet. L'affaire a été vite entendue. Le gentleman a laissé Passepartout s'installer dans sa demeure et s'est rendu, comme d'habitude, à son club. L'après-midi de Phileas Fogg se serait déroulé de façon habituelle si tous les membres du club n'avaient pas eu un sujet de conversation inhabituel. Quelques jours auparavant, un inconnu avait subtilisé 50 000 livres au guichetier principal de la Banque d'Angleterre. Alors, a-t-on des nouvelles de notre voleur? Demandait l'ingénieur Andrew Stewart. Aucune piste, a répondu Thomas Flanagan, industriel important. Juste un vague signalement. Le Morning Chronicle de ce matin affirme même que le voleur aurait le profil d'un gentleman. En admettant que notre homme ait quitté l'Angleterre, il n'y aurait pas un pays où il pourrait se réfugier. Oh, la terre est bien assez vaste, a répliqué un autre membre du club. Elle l'était autrefois, a murmuré Phileas Fogg.
Est-ce que la terre a diminué par hasard?
Phileas Fogg, tout en distribuant les cartes, a expliqué. Oui, dans la mesure où on la parcourt aujourd'hui 10 fois plus vite qu'il y a 100 ans. De nos jours, 80 jours suffisent à en faire le tour.
Je voudrais bien vous y voir.
Andrew Stewart venait d'employer un ton où perçait une pointe d'ironie. La distribution des cartes s'est brusquement arrêtée. Phileas Fogg s'est levé. Qu'à cela ne tienne, il n'y a qu'un moyen de vérifier. Je pars tout de suite. Mais enfin, Fogg, a protesté John Sullivan. Vous ne pensez pas aux imprévus, à tout ce qu'il peut se... Nous sommes le 2 octobre 1872. Je parie 20 000 livres qu'en partant maintenant, je serai de retour le samedi 21 décembre de cette même année, à 8h45 du soir. Faute de quoi, je perdrai ces 20 000 livres. En revanche, si je suis dans les temps, c'est vous qui me les devrez. Par étonné, a souri Andrew Stewart.
La demande de livres.
Phileas Fogg a rédigé sur le champ un chèque de la valeur annoncée et est sorti. Rentré chez lui à 19h50, il a aussitôt sonné son nouveau domestique. Mais comme le jeune Français n'avait pas instruction de répondre à son maître à cette heure-là, il n'a pas réagi. Cependant, après avoir été appelé une deuxième fois, il a dévalé les escaliers 4 à 4, sa montre à la main. « Mais il n'est pas minuit, je n'ai pas préparé votre infusion. » « Je sais, mais nous changeons de plan. Nous partons à l'instant pour Douvres et Calais. Monsieur se déplace ?»« Oui, » a froidement répondu le gentleman. « Nous allons faire le tour du monde. » Passepartout, stupéfait, a ouvert grand les yeux, la mâchoire tombante. Mais nous n'avons que 80 jours devant nous. »« Ah non, pardon. Mais nous n'avons que 80 jours devant nous, » a continué Fogg. « Il n'y a pas un instant à perdre. » Dès lors, tout s'est enchaîné très vite. Les bagages de l'un et de l'autre ont été empilés dans l'entrée et une calèche a été commandée pour la gare de Charing Cross. Au moment de sortir, et avant que Passepartout ne ferme à double tour la porte de la maison, Phileas Fogg a tendu un gros sac de cuir. « Tenez, prenez-en soin, il y a 20 000 livres dedans. » Passepartout, qui n'avait jamais tenu entre les bras une pareille somme, a failli laisser tomber le sac à ses pieds. Moins de 10 minutes plus tard, cependant, les deux hommes se présentaient dans le hall de la gare où les attendaient quelques membres du Reform Club venus assister à leur départ. « Messieurs, leur a dit M. Fogg, je serai de retour dans 80 jours. » Et les deux voyageurs sont montés dans leur compartiment. Le train s'est ébranlé à 8h45 précise. La nuit était noire et il tombait une pluie fine. Dépassé par ces événements, Passepartout serrait machinalement contre lui le sac rempli de livres sterling. Soudain, le jeune Français a poussé un cri. « Que vous arrive-t-il, Passepartout ?» a demandé M. Fogg.
« Il y a que, dans ma précipitation, au moment de partir, je crois que j'ai oublié d'éteindre le bec de gaz de ma chambre. Il va brûler sans arrêt. »«
Eh bien, » a fait son maître en esquissant une grimace, « ce sera retenu sur votre salaire. » En quittant Londres, Phileas Fogg n'imaginait pas à quel point son aventure allait provoquer la curiosité. Les journaux anglais ont pris parti pour ou contre lui. Et selon la Société royale de géographie, son entreprise était forcément promise à l'échec. Mais le plus ennuyeux de toute l'affaire était cette étrange coïncidence, associant le départ soudain de Phileas Fogg à ce vol de 50 000 livres de la Banque d'Angleterre. Cela ressemblait à une fuite. On accuse Phileas Fogg d'avoir volé la banque. Les autorités britanniques avaient aussitôt envoyé des alertes télégraphiques à tous les agents de par le monde pour qu'ils repèrent le gentleman. Parmi ces agents, il y avait un détective nommé Fitz. Cet homme maigre et sec, qui avait un flair certain, était aussi du genre têtu. Il était posté depuis quelques jours sur les quais du port de Suez, en Égypte, et observait le débarquement des étrangers. Ce matin-là, on attendait l'arrivée d'un paquebot en provenance d'Angleterre. Vers 11h, la gigantesque coque du Magnolia est apparue entre les rives du canal, des flots de vapeur jaillissant de ses cheminées. Très vite, l'attention du détective Fix a été attirée par l'allure d'un Européen bien bâti et d'aspect sportif qui venait de débarquer. Ce jeune homme s'est justement approché de lui pour lui demander conseil.
« Excusez-moi, monsieur, où dois-je me rendre pour faire apposer sur ce passeport un visa britannique ?»
L'œil vif de Fix a immédiatement noté que le passeport ouvert sous ses yeux était établi au nom de Phileas Fogg. En masquant le tremblement de sa voix, le détective a demandé au jeune homme
« Ce passeport n'est pas le vôtre ?»«
Non, c'est celui de mon maître qui est resté à bord du Magnolia. »
« Du Mongolia, je ne sais pas lire, le Mongolia. »
Fix a réagi dans l'instant, mentant avec aplomb.
« Pour qu'il obtienne son visa, je crains que votre maître ne soit obligé de se présenter en personne au bureau du consulat. »
Sur ces mots, le domestique français a fait demi-tour.
Alors, Fix s'est longuement frotté les mains,
savourant ce moment unique dans la vie d'un détective. Il tenait peut-être l'un des plus grands voleurs d'Angleterre. Mais il lui a fallu déchanter. Le passeport de Fogg était parfaitement en règle. Et même si le signalement du voleur de Londres pouvait lui correspondre, rien ne prouvait qu'il soit réellement l'auteur du vol. Le plus rageant pour Fix était le mandat d'arrêt. Ce maudit mandat émis par Londres et qui n'était pas arrivé encore à Suez. Le détective a télégraphié à ses autorités en Angleterre pour qu'elles lui envoient le mandat d'arrêt à Bombay, prochaine escale du Mongolia, avant d'acheter pour lui-même un billet vers l'Inde au bureau de la compagnie maritime.
Le passeport, c'est pour passer la frontière.
Exactement. Mais à l'époque, tant que tu étais sur un bateau, tu étais considéré comme en dehors de la frontière. Donc, tant que tu ne descendais pas du bateau, c'est pas grave si t'avais pas de passeport. Mais là, il est descendu.
Deux jours après le départ du Mongolia à travers l'océan Indien, le 10 octobre, quelle n'a pas été la surprise de Passepartout de tomber nez à nez avec cet individu maigre et sec sur le pont supérieur du paquebot.
Vous ici? Je croyais que vous étiez en poste en Égypte.
Pas du tout,
a balbutié son interlocuteur.
Je suis Fix. Agent consulaire britannique, rarement en terre, toujours sur un bateau ou un autre.
Quant à vous, si je me souviens bien, vous êtes le domestique de ce voyageur anglais si original. Je ne l'ai pas encore croisé sur le pont.
Monsieur Fogg n'est pas curieux. Il joue souvent aux cartes dans sa cabine.
Ayant aimablement fait connaissance, les deux hommes, tout au long de la traversée, se sont souvent retrouvés au bar pour commenter leur voyage. Quant à en apprendre plus sur son maître, Fix en a été pour ses frais, le jeune Français ayant été embauché le jour même de son départ. Le 20 octobre, soit deux jours avant la date prévue, le Mongolia s'est présenté en rade à Bombay. À l'époque, les colonies anglaises s'étendaient sur environ la moitié du territoire de l'Inde. Les ingénieurs britanniques avait construit un chemin de fer qui traversait le continent dans sa largeur. C'était un de ces trains à destination de Calcutta que Phileas Fogg comptait prendre.
Passepartout, a-t-il lancé à son domestique avant de débarquer, voilà une liste de quelques courses que vous devrez faire.
Sur ce, Fogg s'est tranquillement rendu à la gare sans rien visiter de la ville. Ni les forts, ni les docks, ni les bazars, ni les mosquées, ni les temples bouddhistes. Fix, dans le même temps, apprenait que son fameux mandat d'arrêt n'était pas arrivé. Le détective devait continuer à suivre son fugitif au plus près. Passepartout, lui, curieux de tout, le nez au vent, se promenait dans les rues de Bombay après ses achats. Son attention a été attiré par la magnifique pagode hindoue de Malabar. Il en a franchi le seuil lorsque trois prêtres, le regard plein de fureur, se sont jetés sur lui arrachant ses chaussures avant de le rouer de coups, tout en proférant des cris sauvages. Passepartout ne savait pas que c'était un crime d'entrer avec ses souliers dans le monument. Le Français, agile et vigoureux, s'est défait de ses agresseurs en quelques coups de poing bien sentis, avant de prendre ses jambes à son cou pour échapper à la foule. Il n'est arrivé dans le hall de la gare que quelques minutes avant le départ du train, essoufflé, pieds nus, le visage endolori et ayant perdu dans la bagarre les sacs contenant ses achats.
« Croyez bien que je suis désolé, »
a déclaré le pauvre garçon à M. Fogg. « J'espère simplement que cela ne vous arrivera plus. » Quelques heures après le départ, Phileas Fogg a fait connaissance avec le brigadier Sir Francis Cromarty, qui allait rejoindre ses troupes à Ballarès. Il n'avait pas bien compris quel but poursuivait M. Fogg, tandis que le train arrivait au pied des montagnes élevées. Il lui a expliqué.
Il y a quelques années, vous auriez connu en cet endroit un retard qui aurait compromis votre programme de 80 jours.
Et pourquoi donc?
Parce que le chemin de fer s'arrêtait ici et qu'il fallait traverser cette chaîne de montagnes à pied ou en palanquin.
J'ai prévu l'éventualité de certains faits inattendus. Passepartout, pendant ce temps, n'arrivait pas encore à réaliser ce qu'il voyait. Vaste plantation de cotonniers, de caféiers, de girofliers, auxquels succédaient des jungles épaisses où luisait parfois la fourrure d'un tigre ou d'un singe, et parfois brillait l'œil d'un éléphant. Or, cette tranquillité a été troublée le lendemain matin à l'aube. Le train s'est arrêté en pleine voie, à 100 km de la gare de Allahabad. Passepartout, envoyé en reconnaissance, est revenu en courant annoncer la nouvelle aux passagers de son compartiment.
Le train ne continuait pas parce qu'il n'y a plus de voie ferrée. Les voies ne sont pas encore construites.
Phileas Fogg s'est aussitôt livré à un rapide calcul.
Nous sommes le 22 octobre et notre prochain steamer part de Calcutta pour Hong Kong le 25. Nous sommes encore dans les temps.
Et voilà pour ce soir.